Cette émission a été rendue possible par le CNC et par la Commission nationale du débat public.
Ça te dirait de voir Backseat jusqu'en 2027, 2040 même ? Eh ben c'est possible, mais pour ça on a besoin de toi. Backseat, c'est une émission qui tient à son indépendance, c'est pourquoi nous avons choisi de faire reposer une partie du financement de l'émission sur notre public. Chaque épisode coûte 13 000 euros, ce qui comprend toute la logistique, mais surtout les salaires de chaque personne intervenant sur l'émission. Pour pouvoir diffuser toute l'année, nous avons besoin de 30 000 euros par mois. Alors rends-toi sur KissKissBankBank, choisis l'abonnement que tu préfères et profite des contreparties que nous proposons en échange, comme le fait de voir l'émission en intégralité sur YouTube dès le vendredi matin, ou l'adhésion au Club Backseat, qui donne accès à plein d'avantages. Si chaque spectateur régulier donnait 1 euro par mois, nous pourrions produire Backseat pendant de nombreuses années. Alors rendez-vous sur KissKiss pour soutenir cette belle émission. Et tout de suite, ta VOD.
Je vous propose qu'on enchaîne, les amis, et qu'on retrouve l'invité de la semaine. Cette semaine, c'est Ponce. Salut Ponce.
Salut.
Comment tu vas?
Bah écoutez, ça va très bien, merci.
Ça fait plaisir de te revoir sur le plateau de Backseat. T'étais déjà venu pour la première saison.
Exact, je savais plus quand c'était, mais c'est 2021.
Ouais, 2021, avant la présidentielle, je m'en souviens. Ponce, on te retrouve régulièrement dans Popcorn. Tu étais en octobre dans le MSF Quest. T'étais là donc sur la saison 1. On va en parler tout à l'heure, mais tu as lancé ton label de musique qui s'appelle Floral Records. Tu fais toujours le tournoi des fleurs sur Mario Kart le dimanche. Tu fais le jeu Le Maître des fleurs. Tu fais un milliard de trucs.
Ouais, comme pas mal de jeux comme toi d'ailleurs, Jean. Mais oui, il y a beaucoup de trucs. Bah, ça fait du bien aussi de se dynamiser un petit peu. Puis là, t'as résumé des années aussi.
J'ai pas mal d'années. Ça fait combien de temps, toi ?
Que c'est mon métier ?
Ouais, que c'est ton métier.
Janvier 2019. C'est pas si vieux, hein.
Ouais, c'est pas si
vieux. Par rapport à d'autres streamers et streameuses, on va dire que j'en ai fait mon métier un peu plus tard, quoi. Effectivement.
On va faire un truc génial pour la planète, c'est que tu vas bouger la bouteille d'eau et je vais te filer une gourde Backseat. Hop là. Incroyable, ni vu ni connu.
Et tu me la donnes ?
Pas du tout, va falloir que tu ne la laisses.
Ah oui, d'accord. Ok, très bien.
Alors, si les gens commencent à embarquer les gourdes et tout, ça va devenir galère après.
Je comprends.
Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, t'as venu ce soir sur le plateau de Backseat, tu l'as annoncé de cette manière-là, on écoute.
Oh, d'ailleurs, en parlant de gauche, de mes couilles et tout, je serai peut-être dans Backseat, un de ces quatre, là, bientôt. Possible participation dans Backseat. Et là, vous allez voir, si jamais vous voulez vraiment savoir si je suis de gauche ou pas, là, vous allez voir dans Backseat ce qui va se passer.
En fait, je savais pas si ça a été annoncé, donc j'étais en mode bon, je dis quand même que
non,
je
non,
passe,
mais si, bien sûr.
J'ai pas trop.
Aucun problème, t'as le droit d'annoncer ta venue, y a pas de problème. Est-ce que tu trouves que Twitch s'est politisé depuis 2 ans ?
Un petit peu. Ouais, sur
certaines questions, par exemple. Non, je sais pas.
Ouais, si, un petit peu. J'ai l'impression que de plus en plus les gens comprennent que si jamais ils parlent pas, bah, quelque part ils collaborent avec des problèmes qui existent. Donc j'ai l'impression que. On se responsabilise, après je me trompe peut-être, mais c'est possible un petit peu, ouais.
La question de l'égalité des genres notamment, c'est
totalement.
Un truc sur lequel j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup sur Twitch.
Ah bah il y a 5 ans c'était pas un débat quoi, c'était, ouais. Personne n'en parlait, maintenant on en parle beaucoup plus, non sans mal, mais oui ça en parle beaucoup plus, effectivement ouais.
Est-ce que c'est plus reconnu aujourd'hui ?
Dans quel sens ?
Bah, la notoriété publique sur la plateforme, le fait qu'il y ait des victimes, le fait qu'il y ait du cyberharcèlement, etc.
Reconnu ? Oui, je pense que c'est reconnu. Après, je pense que l'immense majorité des gens ne se rendent pas compte de la réalité. À quel point c'est encore pire que ce qu'on peut penser.
Pour les victimes ?
Ouais, pour les victimes. Je pense, bah, évidemment, notamment aux femmes, par exemple. Mmh. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent absolument pas compte de ce qui se passe. Ouais. Même si plus les gens parlent, plus on arrive à comprendre un petit peu, ouais, effectivement.
Est-ce que c'est une responsabilité pour toi d'être moteur sur ces questions ? Tu sens que t'as une charge, tu sens que t'as un poids, tu sens que t'as un sacerdoce, je sais pas, appelle ça comme tu veux.
Non. Mais par contre, t'as raison, il y a quelques années, je pensais pas spécialement à ça, et c'est surtout que j'avais aussi moins de notoriété forcément avant que ce soit mon métier, que ça se développe et tout. Mais c'est juste que je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que beaucoup de gens dans l'inaction étaient complètement complices en fait de ça, et surtout que c'était souvent des hommes et ça leur convenait forcément. Mmh. Donc au bout d'un moment, ouais, je me sens pas obligé dans le sens sacerdoce comme tu dis, etc.
Non, je vois ce que tu veux dire.
Mais d'un point de vue purement personnel et valeur, en fait ça fait chier quoi. Enfin,
ouais.
Plus ça, tu vois.
Par ailleurs, on a remarqué que tu avais pris position sur la réforme des retraites, et t'étais pas le seul d'ailleurs. Ça aussi c'était surprenant.
Ouais.
Bah, Pour une plateforme où on dit que tout le monde est dépolitisé, que tout le monde s'en fout, que tout le monde a peur, etc., sur la réforme des retraites, il y a eu quand même pas mal de prises de parole contre la réforme des retraites.
De pas mal de gens, ouais, mais parce que c'est quand même la mouvance globale, c'est-à-dire que ça a vraiment aucun sens de... Enfin, je vais pas redire ce que j'ai déjà dit, mais je trouve que ça a pas trop de sens de pousser l'âge de la retraite quand on voit tout ce qui se passe à côté, avec l'enrichissement des ultra-riches encore plus, etc. Donc oui, forcément, position. Après, c'est une position qui était quand même extrêmement facile à prendre, vu qu'elle est partagée par l'immense majorité des gens, quand même. Enfin,
ouais.
J'ai l'impression.
Oui, là en l'occurrence, tu avais plus de 90% de la population française qui était d'accord, donc c'était voilà, pas une prise de risque énorme de dire que tu étais contre la réforme des retraites.
De risque, quoi,
est-ce que tu te sens toujours un peu en retrait de la politique ?
Alors, la politique telle qu'elle est faite par les gens qui l'incarnent, ouais, j'avoue, ouais. Okay. Par contre, par les questions de société, bah non, je me sens pas en retrait, au contraire, j'ai l'impression qu'on est toutes et tous en plein dedans. Donc, en fait, c'est ça le truc, c'est que. On veut toujours étiqueter les gens et tu sais, on dit ne pas faire de politique sur Twitch et tout. Bon, évidemment, le classique, tout est politique. Mais en fait, on va avoir tendance à mettre des étiquettes sur des gens en fonction du paysage politique du pays, en fait, d'où on vient.
Ouais, c'est vrai.
Alors qu'en réalité, le paysage politique, il est évidemment différent dans tous les pays et que concrètement, on peut avoir des pensées qui peuvent ressembler à des mouvances politiques de notre pays. Mais en fait, tu peux t'inscrire nulle part aussi, quoi. Mm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Je vois ce que tu veux dire. C'est dur de se placer dans un paysage gauche-droite américain, par exemple.
Et ouais, bah, oui.
Paysage très
c'est
particulier.
Impossible. Enfin, bah, moi, je trouve ça
tellement
impossible.
Culturellement tellement spécifique.
Bah, c'est vraiment droite ou gauche. Et enfin, droite ou droite, mais c'est vraiment l'un ou l'autre. Quoi. C'est un peu bizarre, je trouve, comme sensation.
Bon, et puis sinon, depuis 2021, il s'est quand même passé quelque chose. C'est que tu as lancé ton label de musique qui s'appelle
yes.
Floral Records. C'est un peu un tournant dans ta carrière, non ?
Ouais, un tournant, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est le plus gros projet de ma vie hors ce que j'entreprends en stream, effectivement. Mmh. Ouais, de loin. Bah, en fait, c'est un projet.
C'est un peu un retour aux sources aussi, parce que t'avais des liens avec des groupes de musique quand t'étais au lycée, par
complètement.
Exemple.
Complètement. Ouais, complètement. Bah, j'ai fait conservatoire, donc j'étais avec plein de musiciens. Ouais. En général, j'ai eu un groupe de musique qui a un petit peu tourné quand j'étais très jeune adulte. Et concrètement, tous mes potes, mon milieu personnel, qui est en fait le même depuis mes 10 ans, j'ai vraiment un noyau très très solide de potes, bah en fait, ils ou elles bossent toutes et tous dans la musique. Donc en fait, à un moment donné, je me suis dit, c'est un peu évident. Et,
tu t'es senti accueilli ? Parce que quand on est streamer, on peut dans la musique, dans le milieu de la musique, quand on est streamer, on peut imaginer que les gens te prennent avec une certaine distance.
Ouais, ben c'est un truc que j'apprécie justement parce parce que quelque part c'est l'effet inverse du tu vois dans le milieu du streaming quand tu vas arriver, ben peut-être les gens te connaissent, ils t'ont déjà entendu, ils ont vu des émissions, ils ont vu des bouts, etc. J'arrive dans le milieu de la musique, personne ne sait qui je suis. Et en fait, je suis accompagné de collègues qui, eux, pour le coup, ont un pied dans la musique et les gens voient qui ils sont. Donc en fait, moi, ça me met super bien d'être beaucoup plus en retrait, beaucoup plus dans l'ombre.
Okay.
Et au contraire, ça fait du bien.
Non, mais tant mieux, tant mieux. La Floral Party, par exemple, tu as rempli le Bataclan.
Yes.
Quand même, je crois qu'on a quelques images. Tu l'as raconté, d'ailleurs, ça n'a pas été facile de trouver une salle.
Ça, par contre, c'était l'enfer. Parce que effectivement.
On n'a pas d'image.
En fait, les gens se déplacent de moins en moins en concert depuis. Plus le temps avance, moins les gens vont en concert. C'est un peu une réalité un peu triste. Et donc même des artistes de renom, ils ou elles vont avoir du mal à remplir les salles. Et même les salles pas si grandes que ça. Et donc en fait, les salles en général sont frileuses d'accueillir des projets complètement inconnus. Sauf que le Bataclan, ça a toujours été une scène qui accueille ce genre de choses. C'est une scène qui prend des risques. C'est une scène qui accepte des projets complètement inconnus, mais un peu improbables. Et on se dit, oh, ça peut être cool. Et puis, ça remplit pas. C'est pas grave. C'était quand même une bonne soirée. Et donc, c'est les seuls qui nous ont ouvert leurs portes. Et bon, bah, ils étaient super contents. Hein.
Mais t'es bien accompagné, t'as une équipe autour de toi pour bosser là-dessus.
Ouais,
pour Floral Records. Parce que putain, paye ton projet quoi.
Ah non, mais alors moi dans Floral Records, c'est pour ça, souvent les gens ils me disent, mais attends, mais comment t'organises ton temps ? Mais moi, Floral Records, ça me prend quasiment pas de temps. Moi, ça va me prendre par exemple 3 jours par mois parce que je vais en déplacement à un festival pro et du coup, bah, j'y vais pendant 3 jours. Mais le reste de la semaine, moi, je ne fais rien du tout.
D'accord.
En fait, il y a Léo qui est, avec qui on a co-créé, Léo et JB, on a créé à 3 le label. Donc eux, ils gèrent tous les deux la gestion globale, quoi. Et ensuite, plus récemment, on a recruté Cléo et Augustin pour renforcer un petit peu l'équipe. Donc on est 5 dessus. Donc bien sûr que je ne suis pas seul.
T'es pas seul et tu n'es pas que producteur. Tu fais aussi de la musique toi-même. Tu as sorti avec Ceylon.
C'est long. Ouais, c'est long.
Avec Ceylon, t'as sorti une musique. C'est intéressant ça. Tu as envie de passer derrière le micro plus souvent ? Enfin derrière le micro.
Derrière la batterie plutôt.
Derrière la batterie, oui.
Enfin, les percus. Mais ouais, bien sûr. Bien sûr, gros retour aux sources. Alors, c'est difficile parce que j'ai pas joué de batterie pendant 10 ans. Et quand tu joues pas d'un instrument, concrètement, tu oublies tout. Et c'est frustrant, quoi. T'es engourdi. Mais oui, je veux jouer de la musique. Je joue de la musique actuellement. J'ai un projet. Bah, justement, on a sorti un son qui s'appelle Floral il y a un an, un peu plus d'un an.
OK.
Mais avec ce même groupe, donc Célon et Léo et Mig, qui sont des amis aussi. Bah, en fait, on est en. Ouais, mais je crois que je peux pas trop le dire. Hein. Mais ouais, ça arrive fort.
Il y a des problèmes, ça arrive fort. Il y a du lourd qui arrive.
Sans forcément dévoiler tout, moi j'avoue que vivre une petite tournée avec mes amis de toujours à jouer de la musique, c'est sympa quoi. Mm. C'est le projet est sympa quoi.
Ouais, carrément.
Ouais, projet sympa.
Une petite exclu pour Backseat là. C'est horrible ce que je suis en train de faire.
Il y aura peut-être un album qui arrivera en 2024, tu vois, c'est pas impossible. Peut-être.
Incroyable. Avant les européennes ?
C'est pas sûr.
C'est pour vérifier si tu sais quand c'est les européennes.
Les européennes, elles sont en. Bah non, je sais pas. Elles sont en octobre ?
En juin.
Ah non, elles sont en juin. Bon. Non, bah probablement après alors.
Probablement après les européennes. En termes d'univers musical, qu'est-ce que tu recherches pour Floral Records avec toutes les personnes que tu produis ?
En musique pure,
ouais.
Ben en fait, on recherche pas spécialement de musique en soi, de genre de musique, de style de musique.
Vous cherchez quoi ?
Plus une énergie, des espèces de rencontres. Alors déjà, on cherche pas beaucoup. Premièrement.
Oui, ça c'est vrai.
On cherche pas beaucoup parce que déjà, on pose avec des.
Vous recevez beaucoup ?
Ouais, on reçoit beaucoup.
Ouais.
On reçoit beaucoup et évidemment, on peut pas tout faire. On travaille déjà avec 15 artistes. Donc 15 artistes, c'est déjà beaucoup pour un label indépendant. C'est déjà pas mal. Mm. Donc on cherche pas vraiment et quoi qu'il arrive, ça se place. Évidemment dans la musique parce qu'à l'écoute il faut des coups de cœur, mais on va dire que ça se place un petit peu plus dans l'humain et l'envie de développer un projet ensemble. Voilà.
D'accord.
Ça paraît un peu con dit comme ça, mais c'est quand même la réalité. Mmh. On va dire que c'est des ambiances un petit peu. J'aime bien dire une ambiance un peu punk parce que c'est un peu dans la tête de tout le monde, mais c'est pas du tout du punk notre musique, tu vois.
Non.
Voilà. Non, pas du tout du punk, hein, je précise vraiment.
Tu sais, il y a la question de boomer qu'on pose à chaque fois à quelqu'un qu'on interview, c'est comment on gagne de l'argent sur Twitch. Donc je vais pas te la demander. Par contre, j'ai une vraie curiosité.
Après, c'est intéressant. Mais...
Sur comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec un label de musique. Moi, je sais pas du tout comment ça marche.
Ouais.
Ça marche comment économiquement.
C'est bon, il y a évidemment une multitude de moyens de gagner de l'argent pour un label. Tu as la classique, évidemment, le merchandising, donc les CD, les vinyles, les t-shirts, etc. Tu as aussi le fait de produire potentiellement des dates. Si tu produis des dates et que tu remplis, on va dire, au moins 80% ta jauge, tu seras dans le positif.
D'accord, donc tu gagnes de l'argent, ok.
C'est ça. Il y a les plateformes de streaming, donc la distribution numérique. Alors, le chiffre est tout petit, c'est minuscule, mais ça représente quand même voilà, des entrées.
D'accord.
Et ensuite, tu as ce qu'on appelle l'édition. Donc tout ce qui fait référence aux ayants droit, les droits d'auteur, la SACEM, etc. Qui ça représente aussi pas mal de thunes. Dans le sens où, par exemple, quand un groupe joue sur une scène quelconque, eh bien, en fait, ce groupe-là va recevoir de l'argent de la SACEM. Parce qu'ils ont joué quelque chose qui est déposé. Même si c'est déposé par eux et interprété par eux, bah, ils vont recevoir de l'argent en retour.
D'accord,
par exemple. Okay. Il y a ça.
Donc les droits d'auteur, ok.
Ouais. Et ensuite, et on espère que ça va durer, les subventions qui représentent les subventions. Alors nous on est un nouveau label donc évidemment il faut un certain nombre d'années d'activité et prouver des choses pour avoir des subventions mais on commence à en débloquer. Mais concrètement les labels indépendants en France ils vivent grâce aux subventions. C'est leurs subventions annuelles qui font leur budget annuel tu vois. Donc voilà.
D'accord, ok.
Donc c'est un peu tout ça et puis bon après j'imagine qu'il y a plein d'autres petites choses mais dans l'idée c'est ça.
Il y a quelques semaines on a reçu sur ce plateau Luthi qui va se lancer dans l'impro IRL en l'occurrence en salle. On a vu Avamind aussi qui mixe maintenant.
Exact.
J'ai l'impression, dis-moi si j'ai une connerie mais qu'il y a un espèce de mouvement des streamers qui commence à, de plus en plus en tout cas, qui commence à faire des trucs hors ligne.
Mais tu veux dire dans la musique ou...
Musique, impro, c'est pas forcément de la musique vrai, pour l'outil, tu vois, mais de la scène.
Franchement, je sais pas. Moi, ça fait pas si longtemps que c'est mon métier par rapport à d'autres. C'est ce que je te disais, tu vois. Genre, si tu regardes des Domingo, des Erato, enfin, ça n'a aucun rapport, quoi. Donc, ça fait beaucoup moins longtemps. Je pense qu'il y a l'envie, chez un peu tout le monde, quelque part, de se dynamiser. Moi, je sais que j'ai ressenti, bah, par exemple, pendant le confinement, à la fin des confinements, je ressentais une fatigue, c'est-à-dire que je n'avais plus rien à raconter. Finalement, je vivais rien, tu vois. Il y avait vraiment ce truc-là. Et je trouve que quand on suit quelqu'un, on apprécie aussi ce qu'il ou ce qu'elle fait ailleurs. En tout cas, moi, perso, j'aime bien voir quelqu'un qui sort un peu de ce qu'il ou ce qu'elle fait. Et concrètement, moi, j'avais besoin de dynamiser. Et à mon avis, c'est le cas d'autres personnes. Tu vois, de faire d'autres choses, quoi, de sortir de ce truc qui peut devenir une routine. Et donc, tu peux aussi te lasser de ce que tu fais alors qu'à la base, c'est ta passion. Moi, j'ai pas envie de ça. Je préfère être préventif là-dessus, tu vois, et faire d'autres choses, quoi.
Et pendant qu'il règle le programme, on va accueillir sur ce plateau l'association que voulait nous présenter Ponce. Sans plus tarder, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Juliette de l'association Cypher. Salut Juliette.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur le plateau de Backseat. Cypher, c'est une application, mais pas seulement, c'est aussi une association qui fait de la prévention et de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes en milieu festif, notamment en festival. Vous êtes sur Mars Attack, sur Wheel of Green et sur 60 autres festivals. Explique-nous un peu d'où est venue l'idée de créer cette association, cette organisation.
Alors, c'est venu de l'idée de l'association Oran, justement, qui a développé Mars Attack, qui en 2020 n'a pas fait de festival, comme on le sait, et a réfléchi à mieux accueillir le public et l'accueillir avec de la bienveillance. Et du coup, a décidé de développer... Non, et du coup, qui a réfléchi à comment accueillir avec plus de bienveillance et de faire de Mars Attack un espace plus safe. Ouais. Et a décidé de créer ce dispositif avec comme faire de lance l'application, mais pas que, parce que c'est un dispositif à 360 que je peux vous décrire.
Vas-y, carrément, s'il te plaît.
C'est du coup un dispositif d'accompagnement à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Ouais. Donc, à destination du public, mais on intervient en milieu festif, donc on... Vraiment, on s'adresse à des professionnels et des organisatrices d'événements. Donc, on a plusieurs choses. En fait, l'idée, c'est que c'est une boîte à outils dans laquelle ils peuvent, elles peuvent piocher. Ouais. Et on est un centre de ressources qui peut les aider à vraiment faire de la lutte contre contre les violences sexistes et sexuelles un vrai enjeu sociétal. Donc, on a plusieurs choses. On a à la fois un MOOC qui est un
truc de formation, c'est
ouais, ça, c'est formation MOOC, ouais. En ligne. Enfin, c'est pas formation, pardon. Justement, c'est important de le préciser parce que c'est de la sensibilisation.
C'est la sensibilisation.
Ouais. On a donc c'est pour sensibiliser le staff et les bénévoles.
Ouais.
Et on a aussi également donc du coup les applications dont vous avez parlé, donc une application gratuite pour le public qui permet de se géolocaliser si les témoins ou victimes de violences. Et donc une prise en charge ensuite par les équipes de sécurité et les bénévoles sensibilisés. Et une application justement bénévole qui peut, pour le coup, qui reçoit l'alerte, et qui permet de pouvoir très vite intervenir.
Pourquoi est-ce que le milieu festif, c'est un milieu particulièrement à risque ?
Alors, en tout cas, enfin, pour moi, le problème de violence sexiste et sexuelle, il est sociétal, il est structurel, donc il est partout. Nous, ce qu'on peut dire du milieu festif dans lequel on intervient, c'est vraiment que, en fait, c'est un milieu qui accueille tous les publics, donc et surtout les jeunes et les jeunes qui seront les citoyens de demain, notamment. Donc c'est un endroit où il est hyper important de faire de la sensibilisation et de la prévention. Et là-dedans, c'est un lieu d'échange et de parole, et notamment un peu...
Mais il y a des gens dans le chat qui parlent de l'alcool et de la drogue.
Bah ça, complètement.
Ça désinhibe quand même pas mal.
Ça désinhibe pas mal, mais du coup, ça permet aussi, nous, d'accueillir la parole avec des professionnels. C'est pour ça qu'on intervient avec un stand des maraudes, donc qui fait partie justement du dispositif, pour accueillir la parole et de façon la plus safe possible. Et voilà, c'est vraiment hyper important de pouvoir sensibiliser et prévenir dans les milieux festifs, parce que c'est là qu'on forme les citoyens de demain, qui peuvent diffuser un peu ça partout.
Ouais. Ponce, quand est-ce que tu en as entendu parler ? Comment tu as entendu parler de l'association Cypher, toi ?
Alors, du coup, ça a été fait par l'association qui travaille avec Mars Attack, et nous, avec Floral Records, on travaille avec une artiste qui s'appelle Violet Indigo, et qui est gérée par la Mars Attack Agency. Et donc, en fait, la personne qui gère Violet Indigo, on travaille avec. Cette personne s'appelle Hugo, travaille pour Mars Attack.
D'accord.
Et du coup, c'est comme ça qu'il nous a parlé de Cypher. Et en fait, c'est tout simplement des... En fait, c'est des choses qui sont mises en place à certains endroits aussi, un petit peu. Tu vois, au niveau géographique, ça bouge un peu. Et venant du Sud et voyant que ça vient aussi du Sud, je me suis dit que c'était cool aussi de mettre ça en avant.
Bah ouais.
Et puis, parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais concrètement, ce qui se passe souvent dans les festivals ou les lieux festifs ou autres, quand il se passe une violence, c'est la personne qui est, enfin c'est le coupable de cette violence là qui se fait retirer par les agents de sécurité souvent. Et en fait la victime elle est là et elle est en mode bon bah ok cette personne est partie. Allez, on reprend la soirée, tu vois. Et c'est aussi pour ça que c'est important, c'est d'écouter les victimes et de les prendre en charge aussi pendant les événements et de rassurer ces victimes-là, quoi. Donc c'est important.
On a une petite vidéo de présentation que vous avez faite il y a quelques années, je crois. On la regarde et on en parle juste après. Voilà, espace-safer.com, le site internet de cette association. Aujourd'hui, il y a toujours l'application, mais il y a plus que ça, il y a plein de trucs. Comment ça fonctionne ?
Bah, en gros, nous, on a un dispositif d'accompagnement. Donc, on est avant tout là pour transmettre des ressources. Donc, il y a à la fois ce dont je parlais tout à l'heure, le MOOC, qui est vraiment un outil de sensibilisation des équipes en ligne qui a été co-construit, parce que c'est important de dire qu'on n'est pas les seuls dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Je peux dire VSS, ça,
oui, dis VSS, ouais,
c'est ça, ouais. Plus simple.
Maintenant qu'on sait que ça veut dire ça.
Voilà, c'est ça. On co-construit, on est vraiment, on travaille vraiment en réseau avec des associations et des professionnels de l'écoute, des associations comme Consentis ou les Catherinettes qui... elles, pour le coup, sont des organismes de formation. Nous, on est vraiment là pour sensibiliser. Donc, on a ce MOOC-là, qui est hyper important. Et on a, aussi un dispositif qui se déploie physiquement, Safer. Donc, on a un stand et des maraudes de bénévoles sensibilisés. Et vraiment, c'est important parce que c'est avant tout un dispositif qui est humain. Et du coup, on est vraiment un espace d'accueil de la parole avec des professionnels de l'écoute.
Voilà. Et c'est quoi les messages que vous diffusez en festival ?
Alors, c'est intéressant de penser à ça parce qu'on est vraiment en train de réfléchir un peu à la communication du dispositif.
Ouais, tu nous as dit que ça avait un peu évolué.
Ouais, ça a évolué parce que, en fait, au début, ça date des Transmusicales de Rennes, là, de décembre dernier, enfin, là. On a co-construit avec les Catherinettes, justement, l'association avec laquelle on intervenait sur le terrain, des messages de prévention et de sensibilisation. Et en fait, on nous a souvent dit que nous, on faisait des messages qui étaient un peu oppressants, dans le sens où c'était juste des faits. Et donc, du coup, avec les Catherinettes, on a décidé de communiquer sur le consentement uniquement, éclairé, etc. Donc, du coup, c'est vraiment les messages, ils sont hyper importants, ils sont co-construits avec les organisatrices. Mais du coup, c'est vraiment important de les co-construire ensemble.
D'accord. Est-ce que vous arrivez à évaluer l'impact que vous avez ?
Alors aujourd'hui, je sais qu'on se déploie sur plus d'une centaine, enfin, on s'est déployé sur plus d'une centaine d'événements. L'impact qu'on peut avoir, il est dans les gens qui viennent nous en parler, et la sensibilisation et la prévention qu'on continue de faire. Donc l'impact réel, je ne peux pas le quantifier mais en tout cas, j'ai l'impression que en tant que responsable communication, de voir la communication du dispositif qui évolue et les gens qui réagissent, qu'on a un impact quand même assez important aujourd'hui.
Comment est-ce qu'on fait pour vous rejoindre, pour vous aider, pour vous suivre ? C'est quoi les bons liens ? C'est quoi les bons endroits ?
Eh bien, vous allez sur notre site internet.
Espace-safer.com.
Si vous êtes organisateuriste d'événements, vous nous envoyez un petit mail et on reviendra vers vous. Et pareil pour les personnes qui souhaiteraient être bénévoles sur des festivals, on a un espace qui est dédié pas candidater parce que c'est pas le terme pour les bénévoles, mais pour en tout cas devenir volontaire.
Ok, voilà. Trop bien. Un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour l'association Safer et pour Juliette qui est venue avec nous. Merci beaucoup Juliette d'être venue nous parler de cette super association. Et merci à toi Ponce de nous avoir indiqué que c'était cette association que tu voulais mettre en avant?